Le journal est présenté par Anne-Laure Chouin. Bonjour.
Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. L'actualité ce matin, c'est bien sûr la démission de François de Rugy et son remplacement par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Cela fait 3 étés que le gouvernement doit gérer des scandales de ce type. Nous y reviendrons largement avec Stéphane Robert.
Le CETA encore et toujours. Le CETA en question à l'Assemblée nationale ce matin. Les députés doivent se prononcer sur sa ratification. Nous reviendrons avec Marie Viennot dans ce journal sur le mécanisme d'arbitrage privé que contient cet accord.
Un accord qui ne fait pas autant de vagues au Canada, nous dira notre correspondant sur place. Nous irons en Turquie également, où s'est ouvert hier le musée du 15 juillet en hommage au coup d'État manqué du 15 juillet 2016 à Istanbul.
Enfin, c'est aujourd'hui que le célèbre baron de la drogue mexicain El Chapo doit connaître sa peine. On verra que dans son état du Sinaloa, il est toujours considéré comme un héros.
10 ministres en 12 ans à croire que le ministère de la transition écologique est une malédiction pour ceux qui le dirigent. Alors même que le changement climatique est devenu une priorité, du moins dans les discours pour le gouvernement. Hier donc à 23h40, on apprenait que ce serait Elisabeth Borne, l'actuelle ministre des Transports, qui succéderait à François de Rugy au poste de ministre de l'écologie. Cette haute fonctionnaire de 58 ans gardera ses précédentes fonctions et ne sera pas nommée ministre d'État. Quant à François de Rugy, il a mis fin à une semaine compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, en remettant sa démission au moment où Mediapart s'apprêtait à sortir de nouvelles informations sur son compte. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour.
Une démission pour tenter de circonscrire un nouvel été qui s'annonçait compliqué pour l'Élysée. On se souvient de l'affaire Benalla l'été dernier et de la démission de François Bayrou l'été d'avant. Une sorte de malédiction estivale, Stéphane.
Oui, cette affaire Rugy menaçait de feuilletonner comme l'affaire Benalla qui avait pollué la période estivale d'Emmanuel Macron l'an dernier. Et puis, souvenez-vous, vous le disiez, il y avait eu, au début de l'été 2007, l'affaire des emplois présumés fictifs du Modem au Parlement européen, ce qui avait conduit aux démissions de Marielle de Sarnez, de Sylvie Goulard et de François Bayrou, alors que le Parlement s'apprêtait à examiner la loi de moralisation de la vie publique. Là, même chose, on est en plein examen de la loi énergie-climat au Sénat. Emmanuel Macron a fait des questions environnementales une priorité de l'acte 2 de son quinquennat. Il devenait donc de plus en plus difficile de conserver un ministre devenu inaudible. Il faut tout de même noter que, comme pour François Bayrou il y a 2 ans, il n'y a à ce stade aucune mise en cause judiciaire concernant François de Rugy, aucune mise en examen, alors que c'était ça jusqu'ici la règle, ce qu'on appelle la jurisprudence Balladur. Un ministre démissionne quand il est mis en examen, sinon il bénéficie de la présomption d'innocence. Seulement en matière de probité et des responsables publics, on n'en est plus là. Il y a des choses moralement et politiquement insupportables, selon le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure.
Il n'est pas le premier à boire des grands crus à l'hôtel de Lassay, mais il est certainement un ministre qui paye la politique conduite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas boire des bouteilles à 500 euros pendant que vous demandez aux Français de faire des efforts sur leur retraite, de faire des efforts sur leur logement, de faire des efforts sur leurs allocations de chômage, etc. Donc c'est ça qu'ils payent aujourd'hui, c'est ce décalage-là qui rend les choses insupportables.
Olivier Faure au micro de Rosalie Lafarge. Il n'y a donc pas eu besoin de l'intervention de la justice pour que François Rugy démissionne. Et ça, selon le député du groupe Liberté et Territoire, François-Michel Lambert, c'est un problème.
Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une société du bouc émissaire. Il y a eu les boucs émissaires des emplois familiaux. Demain, il y aura un autre sujet qui viendra. Nous sommes rentrés dans une société de défiance et de bouc émissaire. On est en train de monter les Français les uns contre les autres. C'est l'antithèse de ce que nous voulions construire avec Emmanuel Macron. Il faut bien l'avoir en tête.
Ce qui était toléré hier est aujourd'hui devenu intolérable, signe vraisemblablement que notre société est en pleine mutation et que les relations se tendent entre des groupes sociaux aux intérêts de plus en plus divergents.
Alors pour remplacer François de Rugy, Elisabeth Borne, on l'a appris hier, ni une figure de l'écologie, ni une figure d'ailleurs de la Macronie, mais une fidèle.
Oui, on imaginait encore hier que trouver un successeur à François de Rugy serait un nouveau casse-tête pour Emmanuel Macron, comme pour Nicolas Hulot l'an dernier. Finalement, il n'a pas tenté de trouver la personne idéale, susceptible d'incarner ses ambitions en matière d'environnement. Il a choisi parmi ses proches, vous le disiez, une fidèle, sérieuse, besogneuse, qui a su gérer sans trop de vagues la difficile réforme de la SNCF. C'est une de ces ministres qui reste plutôt dans l'ombre, mais efficace, qui conserve le ministère des Transports tout en récupérant la transition énergétique, où elle ne débarque pas en terre inconnue, puisqu'elle y a passé une année en 2014-2015 en tant que directrice de cabinet de Ségolène Royal. Elle avait laissé entendre début juin qu'elle avait des ambitions Pour les municipales, on attendait une éventuelle candidature à Caen. Finalement, elle devra porter les ambitions mondiales d'Emmanuel Macron en matière de préservation de l'environnement.
Merci beaucoup Stéphane Robert. Alors revenons un instant tout de même sur les dernières révélations du site Mediapart. Elles concernaient l'utilisation des frais de mandat de François de Rugy lorsqu'il était député, des indemnités qui auraient servi à payer ses cotisations au parti Europe Écologie Les Verts. Cotisations qui, on le rappelle, donnent droit à une défiscalisation. Paul Cassia est professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pour lui, cette nouvelle démission entache encore un peu plus la promesse de campagne d'Emmanuel Macron d'une république exemplaire, vous y faisiez référence, et surtout cela montre que la loi pour la confiance dans la vie politique de septembre 2017 n'est pas efficace. Paul Cassia, interrogé par Cécile de Kervas-Doué.
Cette réforme de 2017-2018 n'a strictement rien changé. C'est une réforme cosmétique, comme je l'ai indiqué depuis l'origine, n'a rien changé à la situation des frais de mandat parlementaire qui reste toujours entouré d'une même opacité et d'une absence de contrôle. Je dirais même davantage qu'il y a une régression par rapport à l'état de droit existant, puisque l'Assemblée nationale et le Sénat ont autorisé chaque député et chaque sénateur à disposer d'une caisse noire de 600 ou 900 euros par mois d'argent dont ils peuvent disposer à leur convenance, qui peuvent être librement utilisés sans qu'il soit besoin de conserver des factures, ce qui n'était même pas permis avant le quinquennat Macron.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Mais il faudrait faire des choses très simples. Vous avez sans doute, comme journaliste, des frais professionnels. Et ces frais professionnels, vous les engagez, vous les faites rembourser en présentant des factures. Eh bien, ce qu'il faudrait faire, c'est suivre l'exemple de la Chambre des communes britanniques, c'est-à-dire publier pour chaque député et chaque sénateur les frais professionnels qui font l'objet d'un remboursement au titre de l'avance sur les frais de mandat. Ce mécanisme avait été évoqué au tout début du quinquennat Macron. Il a été rejeté parce que, soi-disant, ça coûte cher d'avoir, disons, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de fonctionnaires chargés d'effectuer ces tâches. Mais la transparence a un prix, le respect des électeurs a un prix. Et quand il n'y a pas suffisamment de contrôle, il y a nécessairement des abus.
Le professeur de droit Paul Cassia.
8h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. La grogne montante contre le CETA va-t-elle s'exprimer à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Les députés français doivent ratifier l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada et depuis plusieurs jours, ils sont appelés à ne pas le faire par une multitude d'organisations.
Pour le gouvernement et une grande partie de la majorité, cet accord est un bon accord, mais ses opposants y voient la possibilité de tirer vers le bas toute une série de normes européennes. Le CETA introduit notamment un nouveau mécanisme, le recours à un arbitrage privé pour régler les différends entre les États et les investisseurs. Cela limite la possibilité de légiférer dans le sens de l'intérêt général pour les uns. Toutes les garanties juridiques existent, estiment les autres. Les éclaircissements sur ce point de Marie Viennot.
Le droit à légiférer est un droit souverain des États et il n'est pas remis en cause dans le CETA. Cette crainte a été balayée par deux décisions, l'une du Conseil constitutionnel et l'autre de la Cour de justice de l'Union européenne. De plus, le système d'arbitrage du CETA est inédit. Spécialement négocié pour cet accord, c'est un tribunal permanent avec des juges nommés par le Canada et l'Union européenne et le recours en appel est prévu. De plus, les possibilités de porter plainte ont été encadrées. Ainsi, un investisseur ne pourra pas attaquer un changement de législation en évoquant ses attentes de profit légitimes. Pour les partisans, tout ceci devrait suffire à éteindre les doutes. Mais ils subsistent, notamment chez des juristes, car les droits ouverts aux investisseurs dans le CETA sont assez larges pour que des mesures en faveur de l'environnement, du climat ou de la santé se retrouvent in fine l'objet de plaintes. L'investisseur peut faire valoir son droit à un traitement juste et équitable, une notion très ouverte. Il peut démontrer que la mise en place de la loi a manqué de transparence, n'a pas été prévisible, qu'elle est discriminatoire à son endroit. Bref, il trouvera, ou plutôt ses avocats, trouveront des raisons de porter plainte. Or, la simple menace d'une plainte peut avoir un effet dissuasif sur l'État qui voudrait légiférer. De plus, si le CETA un jour ne s'applique plus, les investisseurs pourront faire appel à ce mécanisme d'arbitrage 20 ans après la dénonciation de l'accord. Un saut dans l'inconnu qui justifie, selon les opposants au CETA, que l'on applique une sorte de principe de précaution juridique et qu'on ne le ratifie pas.
Et côté canadien, alors, le CETA a fait des vagues également au moment de son adoption, mais 2 ans après, et alors que la plupart des mesures douanières notamment sont entrées en vigueur, ce traité fait beaucoup moins parler de lui. La correspondance depuis Montréal de David Savoie.
Le traité était largement décrié au moment de sa négociation. Et pourtant, ces jours-ci, le CETA, connu ici simplement comme l'accord de libre-échange Canada-Europe, fait peu parler de lui. Mais l'accord était et demeure dénoncé dans les milieux agricoles. Par exemple, les producteurs de fromage canadiens disent souffrir des nouvelles règles de douane. L'accord permet de pratiquement tripler les exportations de fromage européen vers le Canada. Déjà, cela signifie pour cette année pas moins de 8000 tonnes de fromage fin et 850 tonnes de fromage industriel qui traversent l'Atlantique. Une compétition qui fait mal aux producteurs de fromage canadiens et les effets risquent d'être plus aigus en 2022 quand tous les contingents tarifaires seront attribués. Le CETA devait aussi être une mine d'or pour les producteurs de bœuf canadiens, mais pour le moment, peu d'éleveurs répondent encore aux normes européennes. Les exportations demeurent assez basses et il faut développer toute une filière. Certains pensaient aussi qu'il serait plus simple d'exporter vers l'Europe avec cette entente commerciale. Pour sa part, le gouvernement de Justin Trudeau vante les avantages de l'accord. Certaines exportations canadiennes vers l'Europe ont bondi, comme l'aluminium ou les véhicules et pièces automobiles. Ce mercredi s'amorce un sommet entre le Canada et l'Union européenne à Montréal et déjà les dirigeants ont fait savoir qu'ils allaient souligner les retombées positives de l'accord.
David Savoie. Il s'appelle le musée du 15 juillet. Il est situé à l'entrée du pont du Bosphore côté asiatique à Istanbul. Un pont rebaptisé pour l'occasion Pont des Martyrs du 15 juillet. 3 ans après le coup d'État manqué du 15 juillet, donc 2016, en Turquie, ce musée commémoratif a ouvert ses portes hier. Un lieu de mémoire autant que de propagande qui, selon le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, doit rendre hommage à la résistance des Turcs et de leur président. Anne Handlauer, la correspondante de France Culture en Turquie, a pu le visiter.
Une voiture grise réduite en boîte de conserve sous le passage d'un tank. C'est la première chose que voit le visiteur en entrant dans le musée du 15 juillet. Et la première chose qu'il entend, c'est cette bande sonore qui le propulse dans la nuit du coup d'État manqué. À l'époque, Semih étudie à Diyarbakır, dans le sud-est du pays.
J'avais vu des photos de la voiture, mais la voir là, en vrai, ça l'imprime dans ma mémoire. Ça montre aussi, contrairement à ce que certains ont dit, que la nuit du 15 juillet était bel et bien réelle, que ce n'était pas du cinéma.
La majeure partie du musée est dédiée aux Turcs qui sont descendus dans la rue et aux 250 morts que la Turquie considère officiellement comme des martyrs. Quelques objets sont exposés, un portefeuille troué par une balle, une moto criblée d'impact et 250 paires de chaussures ayant appartenu aux victimes. Elles arrachent une larme à Selma qui était sortie de chez elle cette nuit-là.
En voyant ça, je me dis, c'est fou quand même ce qu'on a vécu. Ce genre d'endroit est essentiel pour ne pas oublier et pour tirer les leçons de ce qui s'est passé. Je voudrais que les touristes viennent jusqu'ici pour qu'ils voient la force de la nation turque.
Une partie du musée est dédiée à l'histoire de la colonisation, de la traite humaine, des putschs et des luttes de libération à travers l'histoire et le monde. Haroun, un visiteur, a apprécié le parallèle.
Che Guevara, Mandela, ce sont des leaders de la résistance. Une résistance comparable à la nôtre. Ce musée réveille en moi cet esprit de résistance.
Évidemment, le musée n'oublie pas de faire entendre la voix du président Recep Tayyip Erdogan, lui qui, depuis le 15 juillet 2016, aime à se poser en sauveur face aux ennemis de la Turquie.
Anne Handlauer. Joaquin Guzman sera fixé sur son sort. Aujourd'hui, ce baron mexicain de la drogue, plus connu sous le nom d'El Chapo, a été reconnu coupable de narcotrafic, notamment par un tribunal américain qui doit rendre sa sentence à 9h15, heure de New York. L'ex-responsable du cartel de Sinaloa devrait, selon toute probabilité, passer le reste de ses jours en prison. Une sentence que la plupart des Mexicains voient d'un bon œil, sauf une partie des habitants du nord du Mexique et particulièrement ceux de l'État du Sinaloa donc, où le trafic de drogue est implanté depuis des décennies et où l'homme avait une réputation de Robin des Bois. Le reportage à Culiacán, la capitale du Sinaloa, d'Emmanuel Stills.
Le gouvernement pourra dire ce qu'il veut, ici les gens l'aiment beaucoup. Cet instituteur parle de Joaquin Guzman comme beaucoup d'habitants du Sinaloa, avec une admiration non feinte. Ici, on entend souvent dire que le narcotrafic n'est pas un crime, mais une tradition. Un autre instituteur venu de la campagne, qui observe les figurines et autres souvenirs à l'image d'El Chapo vendu à Culiacán, se souvient du jour où il l'a aperçu lors d'une fête populaire.
C'était dans une ville proche d'ici, juste avant sa dernière arrestation. Il offrait des fleurs aux femmes, il commandait des chansons à l'orchestre et il payait les bières. Il se mêlait à la foule, c'était quelqu'un de bien. Il n'aimait pas les injustices. Il distribuait de l'argent et toutes sortes de choses.
Le narcotrafiquant, l'assassin reconnu coupable de 10 chefs d'accusation et qui finira sa vie en prison, serait un bienfaiteur selon les habitants de sa région. Ismaël Bojorquez, le directeur de la revue Rio Dossier, spécialisé dans les enquêtes sur le crime organisé et la corruption, décrit les dérives de ce soutien populaire.
Quand El Chapo Guzmán a été capturé, des milliers de personnes ont manifesté ici pour réclamer au gouvernement de le libérer. Il y avait des jeunes et des femmes qui disaient qu'elles voulaient un enfant de lui. Pour les gens, c'est une façon de décharger leur hostilité envers le gouvernement. Alors, par opposition, ils voient El Chapo comme un héros, une idole, une source d'inspiration.
Au Sinaloa, la guerre contre la drogue menée par les gouvernements successifs, jugés responsables de nombreux abus, a exacerbé la fascination pour les narcotrafiquants et en particulier pour l'homme aux deux évasions, El Chapo.
Il mêlait rythme zoulou et pop occidental. Sa chanson à Sibonanga en hommage à Nelson Mandela a fait le tour du monde. Le chanteur et guitariste sud-africain Johnny Clegg est mort hier à 66 ans des suites d'un cancer. Il avait mis sa musique au service de la lutte contre le régime sud-africain de l'apartheid. Témoin, cette chanson, Sky, écrite avec un musicien noir, ce qui était interdit à l'époque. Johnny Clegg et le chanteur Sifom Chounou. Un mot de la météo de ce mercredi pour finir. Quelques averses parfois orageuses sur la moitié sud, sinon un temps sec et chaud sur la majeure partie du pays. Le ciel sera souvent voilé. Les températures entre 8 et 23 degrés, 23 degrés ce matin, entre 19 et 33 degrés cet après-midi.
Merci beaucoup, c'était le journal d'Anne Lorchouin.